France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. Et ce matin, on s'intéresse à un événement traumatique, un drame intime qui touche environ 200 000 femmes par an, les fausses couches. Comment expliquer les non-dits, les tabous qui les entourent? Quelles sont les principales causes des fausses couches? Quels sont les symptômes? Comment faire le deuil? Comment surmonter ce trauma psychologique? Comment l'entourage peut-il accompagner les femmes qui ont fait une fausse couche? Nous verrons également comment se forme un embryon et quelles sont les raisons de sa viabilité jusqu'au terme de la grossesse. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et à témoigner si vous avez connu une fausse couche comme une femme sur 4. 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebéi.
Alors, qu'est-ce qui vous amène ?
Je sais pas exactement ce que je ressens.
Vous ne savez pas ou vous avez peur?
Bon, tu veux pas en parler, là?
Malheureusement, il n'y a rien à faire.
C'est pas à moi qu'on a dit tout ça, hein.
Vous avez posé des mouchoirs sur vos blessures, mais en dessous, ça saigne encore.
T'inquiète, c'est assez fréquent. Tu vas te remettre?
Extrait du court-métrage « Olive » de Jean-Baptiste Delannoy avec Maud Bettina Marie. Bonjour docteur Daniel Assoun.
Bonjour Ali.
Vous êtes gynécologue obstétricienne, experte dans cette émission. Vous avez été responsable d'un centre IVG et vous avez collaboré à des recherches INSERM sur les échecs de la contraception et les représentations de la ménopause. Bonjour Mathilde Lemiel.
Bonjour.
Vous êtes autrice de BD, vous publiez un album passionnant. C'est vrai que je ne connaissais pas très bien les fausses couches et grâce à votre livre, très pédagogique, très bien fait, très sensible, eh bien, j'en sais un petit peu plus. Ça s'appelle « Fausses couches, vraies questions » chez Glénat. Bonjour Mathilde Bouichou.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée en psychopathologie et vous êtes l'autrice de « Désir d'enfant » publié chez Solar et illustré par Mathilde Lemiel. Alors avant de nous intéresser aux fausses couches et pour mieux comprendre ces phénomènes, j'aimerais que vous nous décriviez le parcours qui mène de l'insémination à la naissance, docteur Daniel Assoun. Comment se développe, à grands traits bien évidemment, un embryon qui deviendra à terme un nouveau-né?
Eh bien, quelque part, c'est presque un miracle, en fait, parce qu'il y a beaucoup de grossesses qui commencent et beaucoup de grossesses qui s'arrêtent. Alors, quand on parle de fausses couches du premier trimestre, qui sont évidemment les plus fréquentes. Mais il existe évidemment des grossesses du deuxième trimestre qui sont beaucoup moins fréquentes et qui relèvent de causes un peu différentes, même très différentes, de cette première partie de la grossesse qui est le premier trimestre.
Et comment se développe donc un embryon qui deviendra à terme un nouveau-né?
Alors, un embryon, il se développe doucement, c'est une évolution lente et tout au long de ce parcours, il y a parfois des espèces de, comment dire, d'erreurs, on va dire, qui fait que effectivement, ces erreurs sont parfois tellement importantes qu'elles ne permettent pas que la grossesse se poursuive. Les malformations, souvent chromosomiques, sont quand même la cause première des fausses couches précoces, des fausses couches, disons, avant 3 mois. Les autres causes sont beaucoup plus rares. Les causes infectieuses, les causes malformatives de l'utérus, tout ça c'est beaucoup plus rare, ou les causes plus générales sont quand même beaucoup plus rares. Donc dans la majorité des cas, ça commence, et puis à un moment, il y a quelque chose qui se passe, qui ne va pas dans le sens où il faut, et ça s'arrête.
Et qu'est-ce qu'une fausse couche d'un point de vue médical ?
Ben, d'un point de vue médical, la grossesse s'arrête, il n'y a plus le développement auquel on s'attendait. À un moment, l'organisme réagit, l'utérus réagit, il y a un saignement, et puis, dans la majorité des cas et spontanément, il y a une expulsion, c'est-à-dire ce que contenait l'utérus est expulsé effectivement. Ceci dans... Là, je parle toujours de la fausse couche du premier trimestre,
hein,
qui est médicalement, bon, peut-être la plus simple, ce qui ne veut pas dire simple pour les femmes, mais simple sur le plan médical. Donc, dans la majorité des cas, eh ben, ça se résout tout seul. Hein, ça se résout tout seul. Il y a des saignements, il y a des douleurs, beaucoup. Et puis, l'utérus se vide, se recontracte. Et ça repart.
Alors vous, Mathilde Bouichou, vous n'aimez pas beaucoup le terme « fausse couche ». Vous préférez tout simplement parler d'arrêt de la grossesse. Pourquoi vous n'aimez pas ce terme-là ?
Parce qu'il n'y a rien de faux dans une fausse couche. Tout est vrai. Ce qui est perdu est réel, même si difficilement définissable. Et on reviendra peut-être sur cette question-là. Et puis, comme vient de le dire le docteur Hassoun, dans la fausse couche, c'est une expulsion spontanée. Moi, une grande partie des femmes qui viennent me consulter vivent plutôt ce qu'on appelle des arrêts de grossesse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expulsion spontanée. Le corps va plutôt être en rétention, va garder. Il va y avoir besoin d'une intervention médicale pour que cette expulsion puisse avoir lieu, soit médicamenteuse, soit chirurgicale, avec un curetage, une aspiration. En tout cas, ça ne dit pas tout à fait la même chose par rapport au corps, le corps qui expulse de lui-même, ou le corps qui garde. Voilà, souvent, le fait de faire cette nuance peut amener beaucoup d'apaisement pour les femmes qui vivent ces situations.
Docteur Hassoun ?
Oui, dans la majorité des cas, c'est vrai que c'est spontanément, ça se résout. Mais ça peut être extrêmement long et donc absolument insupportable pour les femmes qui savent, parce qu'il y a l'échographie, que la grossesse ne se poursuit pas et rien ne se passe. Et donc, ça peut durer 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ça peut durer très longtemps. Alors évidemment, maintenant, on ne le voit plus parce que c'est vrai qu'on pose la question à la femme, est-ce que vous voulez qu'on intervienne ? Ou, enfin, on devrait poser à la femme. Est-ce que vous voulez qu'on intervienne ou est-ce que vous préférez attendre ? Est-ce que spontanément, effectivement, l'expulsion se fasse ? Et à ce moment-là, soit on utilise une méthode médicamenteuse pour l'expulsion, soit une méthode chirurgicale, c'est-à-dire l'aspiration. Il y a aussi un deuxième mécanisme, c'est que parfois il y a une expulsion, mais elle n'est pas complète. Donc là aussi, ça peut spontanément se régler ou il peut y avoir des saignements importants. Et à ce moment-là, c'est important d'intervenir pour ne pas mettre, évidemment, la femme en danger.
Alors, certaines femmes peuvent connaître des fausses couches à répétition, comme vous, hein, Mathilde Lemiel, vous en avez connu 4. Des pertes qui vous bouleversaient, évidemment, et dont vous ne saviez rien.
Absolument. Enfin, disons que je le savais, mais comme quelque chose de très lointain, qui finalement, c'était une vague chose qui pourrait arriver, mais quand du coup, moi, ça m'est arrivé, je suis tombée des nues et je ne savais rien. Et du coup, après, je ne savais rien médicalement aussi de ce qui allait se passer. Et tout a été une découverte de bout en bout.
Alors, je rappelle que chaque année, 200 000 femmes sont touchées, environ une grossesse sur 4, et c'est peut-être un chiffre sous-estimé.
Tout à fait. Je pense que, j'imagine peut-être qu'il y en a plus parce qu'il y en a qui découvrent, qui font pas forcément de tests. Enfin voilà, ça c'est toutes celles qui sont notées par et vues par des médecins en fait. Mais pour toutes les autres, il doit y en avoir, j'imagine, encore plus.
Docteur Hassoun.
Eh bien, ce qu'on pense, c'est que sur 100 grossesses qui commencent, il n'y en a que 25 qui arrivent à terme. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup commencent, dont on s'aperçoit peut-être même pas. Il peut y avoir un retard de règle ou pas de retard de règle. Et la grossesse s'arrête, sans que finalement, on ait même eu le temps de faire un test de grossesse. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de grossesses qui commencent et beaucoup de grossesses aussi qui s'arrêtent.
Mathilde Lemiel, pendant les 3 premiers mois de la grossesse, la plupart des femmes vivent une grossesse invisible, une grossesse silencieuse. Et cette injonction à cacher sa grossesse aux autres est difficile à vivre pour de nombreuses femmes, pour de nombreux couples,
tout
dont
à fait.
Vous.
Oui, tout à fait. Ben, y a un espèce de silence autour des 3 premiers mois où il faut surtout ne pas dire qu'on est enceinte. Alors, parce qu'au cas où, justement, ça s'arrête, il y a une espèce de superstition un peu, si on le dit, ah, peut-être que ça va se passer, superstition qui est vraiment, je pense, là, parce qu'on n'en parle pas. Du coup, ça oblige les femmes à vivre dans le silence les 3 premiers mois, qui sont des mois très éprouvants psychologiquement, mais physiquement aussi, parce qu'il y a de la fatigue, il peut y avoir des nausées, et plein d'autres symptômes. Et puis, du coup, si une fausse couche arrive, du coup, c'est le double silence qui s'installe, où là, on ne peut pas dire qu'on a perdu la grossesse, puisque on n'a pas dit qu'on était enceinte, donc il y a un double.
Et vous estimez que ce silence, ces grossesses silencieuses, provoquent une banalisation de la fausse couche ?
Alors, est-ce que c'est le silence qui provoque la banalisation? Je ne sais pas forcément si c'est le silence qui provoque la banalisation. Je pense que le silence, il vient surtout d'une situation où, voilà, c'est pas forcément intéressant, c'est des trucs de filles, voilà, la grossesse, puis surtout, c'est normal. Et puis surtout, c'est naturel d'être enceinte. Ça se passe naturellement, donc du coup, ça ne sert à rien d'en parler. Puis ce qui est important, c'est le bébé qui arrive à la fin. Ce n'est pas forcément la femme qui vit sa grossesse.
Docteur Hassoun.
Alors, on peut dire banal au sens de fréquent. Mais on ne peut pas dire banal au sens de ce qui vous arrive. Rien n'est jamais banal dans cet ordre des choses. Et même si ce n'est pas toujours un drame, ça reste comme une cicatrice.
Alors, je ne parle pas d'un point de vue personnel, je parlais d'un point de vue sociétal. Cette invisibilisation, cette minimisation de la fausse couche.
Alors, c'est vrai qu'il y a ce phénomène-là, mais il y a ce phénomène-là aussi qui s'appuie sur le fait que dans la majorité des cas, et ça c'est important de le dire, faire une fausse couche n'aura pas d'impact sur la fertilité ultérieure. C'est-à-dire, on pourra avoir des enfants, et les fausses couches se situent de façon... Parfois c'est une première grossesse. Puis parfois, il y a eu une première grossesse qui a été menée à terme, puis une autre grossesse qui n'est pas menée à terme. Et donc, effectivement, dans la tête, c'est pas exactement la même chose, ni on vit pas exactement la même chose quand on a déjà eu un enfant, par exemple, ou quand c'est la première fois où on désire une grossesse. Donc, sur le plan sociétal, oui, d'abord, ça ne se voit pas physiquement. Donc, en fait, le silence, il est là. On ne voit pas une femme enceinte de moins de trois mois. Donc, c'est là où ça se situe, le silence.
Mathilde Bouchou.
En tout cas, la grossesse, elle est socialement, elle est invisibilisée parce qu'il faut qu'elle soit confirmée pour devenir utile. L'objectif, c'est d'avoir un enfant, comme l'a dit Mathilde, finalement. Tout ce qui se passe avant, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est comme si ça avait un peu moins d'intérêt. Et que les raisons médicales, et le docteur Hassoun vient de le dire, le nombre de grossesses qui s'arrêtent est quand même extrêmement important. Et donc, le prisme du risque et de la peur est mis en avant sur le fait de garder le silence.
Bonjour docteur Adrien Chaboch.
Bonjour Ali.
Quel est le menu de votre chronique Quoi de neuf docteur ?
Eh bien écoutez, aujourd'hui c'est un mois particulier, le mois de mars bleu pour le dépistage colorectal, et aujourd'hui on lève des tabous, il faut aussi lever celui-ci, donc je vous en parle tout à l'heure en détail.
Ali Rebéi, grand bien vous fasse, sur France Inter.
Comment lever le tabou des fausses couches? C'est notre thème ce matin. Écoutons la chanteuse et comédienne Anaïs Delva dans le documentaire « Fausses couches, la fin d'un tabou » d'Alissa Macni en 2024.
La fausse couche m'a amené une dose de tristesse et de peine dans le cœur. On n'est pas du tout préparé à vivre ce genre de choses. On est préparé à tout vivre. On grandit avec des films qui nous parlent d'histoires d'amour qui se passent mal, de séparation, qui nous parlent de deuil parental, ou de deuil d'un ami, ou de deuil d'un amour. Mais on n'a pas beaucoup d'exemples de deuil d'un enfant, et encore moins d'un enfant qui est en gestation. On n'a pas ça. Donc c'est vraiment des choses qu'on n'est pas du tout préparé à vivre. Et de la même manière que n'importe quel coup dur reste avec nous toute la vie, celui-là aussi, quoi.
Mathilde Lemiel, autrice de BD, d'une très belle BD, Fausse couche. Vraie question, votre réaction à ce que vient de nous dire la comédienne et chanteuse Anaïs Delva? Ou vous, Mathilde Bouchou, qui êtes psychologue clinicienne.
En tout cas, ce qu'elle vient de dire, ça reflète vraiment le vécu de ces femmes qui sont bien souvent pas informées, ou comme le disait Mathilde tout à l'heure, imagine que ça arrive qu'aux autres, qu'elles ne seront pas touchées par cette situation, cette épreuve. Et oui, c'est une épreuve pour laquelle beaucoup de femmes ne sont pas assez informées et qui va les marquer profondément, à la fois émotionnellement, psychiquement, dans leur corps, et qui est une épreuve éprouvante, douloureuse pour la majorité des femmes qui le subissent, parce qu'on ne fait pas une fausse couche, on la subit.
Mathilde Delemiel.
Tout à fait. Déjà, je trouve ça bien de dire, on ne fait pas une fausse couche, on la subit, parce que c'est pas quelque chose qu'on... voilà, on le prend en plein corps, on va dire. Et tout à fait, moi, je pense que c'est, voilà, ça peut, je trouve ça important de dire que ça peut être traumatisant et de dire aussi que ça peut ne pas l'être. Parce que je trouve ça hyper important de dire qu'il y a une pluralité de vécu par rapport à la grossesse arrêtée. Et autant ça peut être un drame absolu, autant ça peut, des fois, parce que moi, j'ai reçu des témoignages dans ce sens, que ça peut être un soulagement. Parce que des fois, ouais, on est enceinte et on sait pas trop. Et puis finalement, ça arrive comme une réponse au destin, on va dire. Et je trouve ça super important d'avoir vraiment tous ces vécus-là et de ne pas rester dans le drame.
Docteur Daniel Assoun, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne.
Oui, deux choses. D'abord, dans les temps anciens, je pense que les femmes savaient et parlaient entre elles. Maintenant, les femmes, elles sont seules. On est seule dans son appartement, au mieux avec son compagnon, parfois avec un peu avec sa famille, mais pas toujours, c'est pas quelque chose qu'on va dire spontanément à sa famille. Donc c'est vrai que maintenant elles sont seules, donc voilà. Et la deuxième chose, c'est par rapport à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, c'est vrai qu'on a un certain nombre de femmes qui viennent pour une IVG et dont on s'aperçoit sur l'échographie que la grossesse est arrêtée. Et moi, ce que je leur dis, c'est, est-ce que vous voulez qu'on considère que c'est une IVG, je vous donne les médicaments, par exemple, ou est-ce que vous préférez attendre que les choses se passent spontanément? Parce qu'effectivement, c'est pas tout à fait pareil de décider qu'on arrête une grossesse, en toute tranquillité parfois, ou d'attendre et de considérer que, bon, voilà, la nature a fait que cette grossesse n'a pas pu se poursuivre. Et donc, c'est très important de faire cette proposition quand on a une échographie où on voit que la grossesse est arrêtée, alors qu'elle n'était pas souhaitée, désirée.
Et vous, Mathilde Lemiel, là, vous vous posez la question sur l'IVG et sur les fausses couches. Vous dites dans votre BD comment pleurer ses débuts de grossesse et en être anéanti et en même temps être pour le droit à l'IVG.
Ouais, moi, c'est un truc qui m'a vraiment qui est extrêmement questionné quand j'y vais tout ça, parce que, et ça n'a absolument pas remis en question aucunement mes convictions sur le droit à l'IVG pour tous. Et j'ai pas de réponse. Je pense qu'en fait, la seule réponse que j'ai, c'est que c'est à la femme de choisir ce qu'il y a dans son utérus, et que si une femme décide de faire une IVG, elle choisit de dire c'est un bébé, c'est un embryon, c'est je le veux, je le veux pas, et c'est vraiment...
Vous le dites très justement, et si je dois faire le choix de l'avortement un jour, cela ne voudra pas dire que mes fausses couches n'ont pas compté. Bref, une situation n'invalide pas l'autre.
Exactement. Je pense qu'il n'y a pas de... C'est pas des vases communicants ou...
Docteur Assoun.
Eh bien, moi, je dirais qu'il y a un temps pour tout. Oui. Et que donc, voilà, il y a des moments où c'est pas le moment, il y a des moments où c'est le moment mais ça marche pas, hélas. Et il y a des moments où c'est le moment et ça marche. Et c'est très bien comme ça. Il y a un temps pour tout pour les femmes.
Christian nous écrit, on pourrait appeler les fausses couches interruption involontaire de grossesse. Mathilde Lemiel.
Tout à fait. Je pense qu'il y a plein de mots qui pourraient être utilisés pour remplacer fausses couches, qui effectivement est inapproprié dans son sens. Néanmoins, je pense que c'est pas pour moi le débat le plus important à avoir. Moi, j'ai choisi d'appeler mon livre Fausse couche, justement parce que c'est un mot qui rassemble, et c'est le titre aussi de votre émission. Et pour moi, c'est important, c'était de rassembler. Et ok, maintenant, on peut poser cette question-là et y réfléchir, mais pour moi, il y a des choses à voir avant, en fait, avant de cette question du nom, même si c'est une question qui est importante quand même.
Oui, on pourrait. Il y a des problèmes de terminologie. C'est vrai que fausse couche, c'est quand même, c'est vrai, le moins adapté, en tout cas, qui sonne le moins bien, si je puis dire.
Un peu brutal.
Beaucoup d'auditrices et d'auditeurs nous demandent quelle est la différence entre une fausse couche et la mort fœtale in utero. Docteur
Assoun. C'est une histoire de terme. On parle de mort fœtale in utero à partir du moment où le fœtus est viable, c'est-à-dire autour de 22-24 semaines.
Alors, avant de vivre plusieurs fausses couches, Mathilde Lemiel, vous n'en aviez jamais entendu parler. Comment vous expliquez au fond ces non-dits, ces tabous autour des fausses couches, ce secret, cette douleur partagée par de nombreuses femmes? Même si vous l'avez dit, certaines femmes le vivent plutôt bien et ce n'est pas un événement traumatique.
Je pense qu'il y a de la honte, il y a de la gêne. Et puis, comme le disait
Docteur Hassoun.
Voilà, docteur Hassoun tout à l'heure. Je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Et avant, les femmes parlaient entre elles. Et je pense qu'il y avait des discussions. Et maintenant, vraiment, on est plutôt assez seules dans notre quotidien. Et je pense que ça vient du coup aussi, la difficulté d'en parler de ça, c'est qu'on croit qu'en fait, on est les seules à le vivre. Et il y a une honte qui s'installe, le sentiment d'avoir raté. Et que c'est quelque chose, on nous dit tellement, avoir un enfant, c'est merveilleux, c'est le but ultime. Enfin voilà, quand on voit la publicité, tout ça, etc. C'est des choses qui sont tellement vendues comme quelque chose qu'il faut faire et en plus il faut le faire bien et il faut le faire heureuse, que quand ça nous arrive, ben du coup c'est la débandade.
Et vous parlez d'une ambivalence très dure à vivre, parce que d'un côté il faut taire cette grossesse pendant 3 mois, et puis d'un autre côté il faut tout faire pour que ça marche.
C'est ça. Moi j'ai trouvé ça super dur, parce que du coup on ne doit pas le dire, donc on ne doit pas boire, on doit changer plein de choses dans notre comportement, mais en même temps faut rien dire. Donc comment on fait ? C'est un espèce de jeu de dupe permanent où on doit cacher ses émotions, qui du coup, des fois, en plus, hormonalement, on peut être très à fleur de peau, très fatigué physiquement, donc il faut cacher tout ça. Et moi, j'ai trouvé ça hyper dur, et je trouve ça très dur pour les femmes d'être... Et les couples, du coup, le parent ou le conjoint qui accompagne la grossesse, de devoir en permanence mentir, en fait.
Et après une fausse couche, vous racontez tous ces sentiments variés qui vous assaillent, l'injustice, la culpabilité, la honte, la colère, la tristesse, et puis aussi, c'est un tabou, la jalousie.
Ah ouais, ça moi j'ai trouvé ça très dur à vivre, le fait de voir tous les autres arriver, mais c'est un truc que les personnes qui sont au PMA, je pense, le vivent aussi, qui traversent l'infertilité, du coup de voir les autres y arriver et que nous on n'y arrive pas en fait, et puis ça nous remet toujours dans nos échecs, et c'est psychologiquement c'est très dur à vivre au bout d'un moment, moi je sais qu'il y a des gens auxquels je me suis écartée parce que c'était trop difficile en fait, je pouvais pas le gérer, donc après les gens le comprenez, ça s'est bien passé, mais je sais qu'il y a des personnes qui se fâchent très fort avec d'autres parce que c'est pas compris en fait ça. On est censé être heureux dès que quelqu'un est enceinte et ne pas être triste.
Mathilde de Bouichou, les femmes que vous recevez dans votre cabinet et qui vivent une fausse couche se demandent bien souvent ce qu'elles ont fait de mal. Des fausses couches qui peuvent faire écho à une mauvaise perception de soi.
Tout à fait, et c'est important de le dire, elles n'ont rien fait de mal, ça n'est absolument pas de leur faute, mais comme ça se passe dans leur corps, elles pensent qu'elles en sont pleinement responsables, et ces pensées-là, cette culpabilité-là, les attaquent beaucoup, ils viennent attaquer leur estime d'elles-mêmes, parfois même venir confirmer des croyances qu'elles ont sur elles-mêmes, qu'elles ne seront pas de bonnes mères, qu'elles ne seront pas à la hauteur, parce que toute femme en début de grossesse ou dans ce projet d'avoir un enfant peut se questionner, est-ce que je vais réussir à être une bonne mère, à répondre aux besoins de mon enfant, à l'élever correctement. Et donc, l'arrêt de la grossesse peut vraiment venir confirmer, sacraliser ces inquiétudes qui vont rester parfois très longtemps et qui vont avoir un impact sur la manière dont les choses, dont la parentalité va être vécue, voire même menée. Donc, ça peut avoir des répercussions à très long terme. Si je peux, j'aimerais réagir sur la dimension traumatique, parce que plusieurs fois, on a parlé cet événement traumatique, ça me semble important de faire une différence entre le vécu traumatique, c'est-à-dire le drame singulier, individuel que ça peut être, et la dimension traumatique au sens psychopathologique du terme. C'est-à-dire que, bien souvent, la majorité des arrêts de grossesse n'engendrent pas de syndrome de stress post-traumatique. Quand c'est le cas, c'est bien souvent les circonstances de l'arrêt de la grossesse qui viennent ajouter de la douleur à la douleur ou à ce qui a été difficile. Et là, on voit bien parfois le fait de beaucoup saigner. Alors c'est vrai que souvent on dit aux femmes, vous allez saigner comme des grosses règles, mais c'est pas des grosses règles. Et souvent, les saignements sont extrêmement importants et elles peuvent en être très choquées si elles se mettent à saigner au travail ou si l'annonce de l'arrêt de la grossesse lors de la première échographie du premier trimestre est un peu brutal, un peu déshumanisé. C'est encore beaucoup le cas et beaucoup le récit, les récits que j'ai de patientes, même si les soignants font au mieux dans un système qui va mal. Mais souvent sont quand même les circonstances qui vont amener une dimension traumatique au sens psychopathologique, où là il y a des symptômes quand même très spécifiques, comme des flashbacks, des pensées intrusives, émotionnellement ça va être extrêmement environnement dérégulé, des femmes qui vont éviter après les consultations gynécologiques. Donc ça peut même avoir des conséquences pour la santé des femmes à long terme. Mais voilà, là on est dans autre chose quand même. Ça me semble important de faire la différence.
Docteur Hassoun ?
Moi je voudrais rajouter quelque chose sur la douleur. D'une part, les saignements, comme vous l'avez dit, peuvent être extrêmement abondants et plus abondants que des règles. Et d'autre part, c'est douloureux. Et je pense que c'est là où intervient vraiment un suivi et des conseils. Il y a des médicaments comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont efficaces en partie, pas complètement. Mais je pense que c'est important d'accompagner là, en tout cas pour les professionnels de santé, d'accompagner les femmes pour essayer d'être le moins douloureux possible.
Mathilde Lemiel.
Je suis hyper contente d'entendre ça, parce que je trouve que le corps de la femme, c'est souvent l'oublié de la fausse couche. Et du coup, c'est, pour moi, c'est primordial de parler justement de cette douleur, de ce sang, et de tout ce que ça engendre, en fait, de choc pour la femme. Et je trouve ça hyper important qu'il y ait de la prévention qui soit faite avec ça, parce que moi, quand ça m'arrivait, à chaque fois, on m'a donné du space-fond, et on m'a dit rentrez chez vous, et puis voilà, et en fait, ben non, c'est juste, ça suffit pas, il faut vraiment qu'il y ait de l'information sur les femmes.
Prendre en compte la douleur physique, c'est aussi une manière de prendre en compte la douleur psychique, émotionnelle, et donc c'est tout extrêmement important et essentiel.
Merci.
Bonjour Sarah, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous vouliez témoigner ce matin. Nous vous écoutons.
Oui. Alors, je suis tombée une première fois enceinte en 2022. Mmh. Et au bout d'une semaine, finalement, j'ai eu des saignements. Donc, j'ai fait une fausse couche. Et je voulais dire que la manière dont j'ai été accompagnée a été assez violente. Parce que donc, je suis allée à l'hôpital. Mmh. Et on m'a fait comprendre, en fait, que ça faisait qu'une semaine. Déjà, on voit rien. Donc, c'est compliqué de voir. Et ça allait pas être trop douloureux, que ça allait vite passer, que c'était pas très grave. Et ça a été très violent pour moi parce que je m'attendais pas du tout à faire une fausse couche. J'étais extrêmement contente de tomber enceinte. Et ça a été un peu les montagnes russes au niveau émotionnel. Et voilà, je suis rentrée vers 4h du matin chez moi et on m'a pas proposé d'arrêt de travail. Et ça a été très douloureux et très très dur psychologiquement. Donc voilà.
Vous aviez quel âge à l'époque, Sarah ?
26 ans.
26.
Et aussi, il y avait la réaction de ma maman quand je lui ai dit que j'avais fait une fausse couche. En fait, elle a été super contente que j'essaie de tomber enceinte. Et elle n'a pas du tout pris en compte, en fait. C'était pas malveillant. Hein.
Bien sûr.
Mais en fait, elle en a vécu 3 des fausses couches. Elle a eu 4 enfants. Donc en fait, c'était plutôt normal, quoi.
Donc, réaction autour de la table, Mathilde Bouchou.
Oui, merci Sarah pour votre témoignage, en tout cas par rapport à ce que vous avez vécu, l'accompagnement que vous avez eu. Voilà, s'il y a vraiment un message aujourd'hui pour les professionnels de santé, c'est vraiment... Pour eux, en effet, c'est banal parce que fréquent, mais individuellement, c'est un drame individuel, singulier. Donc, il y a ce décalage qui est énorme, mais la manière dont les femmes, les couples vont être accompagnés va avoir un impact énorme sur la manière dont ça va être vécu et dont la suite va être vécue. Et comment le devenir parent lors d'une prochaine grossesse va être vécu. Donc, ils ont un impact extrêmement important. Et ça, c'est important qu'ils puissent l'entendre, le prendre en compte dans l'accompagnement. J'ai aussi envie de réagir par rapport au témoignage de Sarah sur les réactions des proches et parfois les différences, en effet, intergénérationnelles, où autrefois, c'était davantage banalisé, peut-être accepté, ou en tout cas différemment. Voilà, on voit bien que le vécu de la fausse couche, il a évolué socialement avec l'histoire. Aujourd'hui, les grossesses sont davantage programmées, attendues, désirées. Les femmes font moins d'enfants, donc sont peut-être plus investies dans ce projet-là, ou en tout cas différemment, en tout cas avec une intensité peut-être un peu ou une volonté un peu différente. Donc, on peut observer ces décalages qui amènent des réactions de l'entourage qui peuvent être maladroite, même si elles ne sont pas mal intentionnées.
Docteur Hassoun ?
Juste une question technique. Il y a des recommandations basées sur des bases scientifiques qui disent qu'il faut attendre 7 jours entre la première échographie où on a le soupçon que cette grossesse est arrêtée et 7 jours plus tard être sûr que la grossesse est arrêtée. En fait, le problème, c'est d'être sûr du diagnostic. il faut être sûr du diagnostic. Le problème, à mon sens, c'est qu'on est parfois un peu dogmatique. La première écho est parfois comme une évidence. Et c'est peut-être pas la peine d'attendre 7 jours, parce que alors là, c'est extrêmement douloureux pour les femmes, d'attendre 7 jours en se disant qu'est-ce qui va se passer la prochaine échographie, alors qu'on est quasiment sûr. Donc il faut peut-être pas être aussi dogmatique sur des recommandations, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même établir un vrai diagnostic, car il arrive parfois qu'on pense que la grossesse est arrêtée, alors qu'elle est simplement plus jeune que ce qu'on pensait. Donc, il y a quand même des éléments médicaux dont il faut tenir compte.
Sarah, restez avec nous. Vous nous direz tout à l'heure comment vous avez fait le deuil de cette fausse couche. Il est 10h38, l'heure de retrouver la chronique Quoi de neuf docteur du docteur Adrien Chaboch.
Ah ouais, ça me le fait, là.
Grand bien vous fasse.
Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je vous en prie, dites-le-moi.
Ali Rebéi.
J'ai pensé à la tuberculose, moi, c'est ridicule.
Quoi de neuf docteur?
Sur France Inter.
Docteur Adrien Chaboch.
Mon cher Ali, la lumière du printemps pointe, enfin essaye, parce qu'aujourd'hui il pleut, alors ça c'est les effets du live, pointe le bout de son nez, et ça me permet de mettre en lumière Mars Bleu, le mois de la sensibilisation contre le cancer colorectal. Alors ok, je vous l'accorde, lumière et colon, ça peut un peu faire sourire, je suis d'accord. Mais lorsqu'on sait que ce cancer est le troisième le plus répandu dans le monde, il y a pas vraiment de quoi rire, surtout quand on regarde la froide réalité des chiffres. Dans le monde, c'est 2 millions de cas par an, 930 000 décès, et dont plus de 17 000 morts chaque année en France. Alors c'est pour cette bonne raison que la Ligue contre le cancer a lancé cette campagne choc et brillante qui s'appelle « Va chier ».
Et j'ai d'ailleurs le tote bag de la Ligue contre le cancer avec un gros vachier imprimé.
Et je pense qu'on l'aura répété le plus de fois dans l'émission, et c'est très rare. Alors je vous explique pourquoi. Avec Rémi, mon patient, que je vois depuis plus de 10 ans. Rémi, il a toujours ses petites lunettes vissées sur le bas de son nez, il me regarde par-dessus. Il m'a fallu du temps et une certaine résilience, car je ne sais pas si ce sont ses 66 ans qui ont fait son tempérament, mais en consultation, c'est lui qui commande. Il donne et reprend la parole, dirige les sujets, et parfois j'avais l'impression que c'était lui qui m'envoyait balader. Mais avec le temps, j'ai appris à discerner son angoisse derrière ses lunettes, et nous sommes devenus bons complices. Alors il y a 3 ans, je lui demande de réaliser un dépistage colorectal. Je lui explique que ce test est destiné à toutes les personnes entre 50 et 74 ans. Je répète, tout le monde entre 50 et 74 ans. Et se réalise à la maison, avec un kit que je lui remets. C'est assez ludique, il faut jouer un peu avec ses matières pour faire un petit prélèvement de sel aux toilettes avec le matériel prévu, puis on envoie le tout par la poste dans une enveloppe préparée. C'est dingue ce qui passe par la poste. L'analyse du labo va rechercher la présence de sang microscopique non visible à l'œil nu. N'essayez pas. Le test dispose d'une excellente sensibilité. S'il est négatif, on est sûr à 98% qu'il n'y a pas de polype et on refait le test tous les 2 ans. En revanche, si c'est positif, il faut réaliser une coloscopie pour rechercher un polype. Ce sont ces petites excroissances bénignes qui se développent au niveau du côlon et du rectum. Et parmi eux, il y a des adénomes, lesquels peuvent évoluer lentement, très lentement, environ 5 à 10 ans pour devenir un cancer. Sauf dans le cas de maladies spécifiques et génétiques, c'est un autre sujet. Alors Rémi, lorsque je lui dis ça, il m'a regardé, l'air de dire « me ça va pas la tête ». Mais bon, m'a répondu poliment « à mon âge, il faut vraiment le faire ». Comme nous avions une bonne confiance, malgré son air bougon, il a fait le test. On ne sauve pas toujours la vie de façon directe en médecine générale. Mais Rémi, aujourd'hui, chaque fois que je le vois, il me remercie de l'avoir sauvé. Car sans aucun symptôme, c'était bien un cancer qu'on a diagnostiqué et traité rapidement, sans aucune séquelle. Alors je sais que ça perturbe un peu nos habitudes, le tabou du caca, mais aujourd'hui, on a vu comme les tabous doivent être libérés, rien de mieux que d'en parler avec un peu d'humour et de légèreté. C'est vrai aussi que notre vision de la maladie cancéreuse s'en trouve un peu chamboulée. Oui, on peut vous guérir d'un cancer que vous auriez pu avoir en retirant ces polypes, c'est-à-dire être guéri avant d'être malade. Et ça, mentalement, c'est pas une idée évidente. Mais on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il n'y ait que 1 Français sur 3 qui fasse le dépistage lorsqu'on sait que prise en charge à un stade précoce, la maladie se guérit dans plus de 90% des cas. Alors comme on ne peut pas non plus dire « va chier » à quelqu'un qui aurait peur de faire le test. Ali, comme vous êtes notre phare, c'est à vous que je remets ce kit aujourd'hui pour que vous soyez exemplaires et encouragez tous nos auditeurs.
Merci beaucoup de me remettre ce kit, c'est un très beau cadeau, j'apprécie. Donc vous pouvez en parler à votre médecin généraliste et vous pouvez également aller sur le site monkit.dépistage-colorectal.fr, monkit.dépistage-colorectal.fr, et vous pouvez également aller sur le site de la Ligue contre le cancer. Merci beaucoup docteur Adrien Chaboch. On retrouve votre chronique sur l'appli Radio France.
France Inter. Grand bien vous fasse. Allez Rébéi.
Comment lever le tabou des fausses couches, c'est notre thème ce matin.
Comment je fais le deuil de quelqu'un que j'ai pas vraiment connu?
Identifiez-le. De la manière la plus juste pour vous. Reconnaissez-le. Vous pouvez même lui donner un prénom. Et parlez-lui.
Salut. Je suis désolée, j'aurais dû te parler il y a quelques mois, mais j'y arrivais pas. C'était trop dur. Je suis désolée d'avoir fait comme si t'avais pas existé. Alors qu'en fait, t'as tellement existé. Pas longtemps, mais tellement. Je te promets d'arrêter de penser que tout ça, c'est de ma faute. Parce que c'est la faute de personne, c'est comme ça. C'est tout. Je te remercie parce que tu m'as fait vivre une joie que j'avais jamais vécue. Et tu feras toujours partie de ma vie. Toujours. Je t'aime.
Bonjour Maude Bettina Marie, bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup.
Vous êtes scénariste et actrice dans le très sensible court-métrage Olive, réalisé par Jean-Baptiste Delannoy et visible sur le site Cogendi Productions. Vous avez connu une fausse couche et ce court-métrage parle du deuil de la fausse couche. Le psy que consulte Olive dit à un moment « Vous avez posé des mots sur vos blessures, mais en dessous, ça saigne encore. »
Oui, vous avez posé des mouchoirs sur vos blessures.
Des mouchoirs, oui. Et parce que Olive a du mal à intégrer qu'il s'agit d'un deuil.
Oui, je précise juste que Olive, c'est le prénom qu'elle finit par donner
oui,
à son bébé.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ah pardon, excusez-moi, j'ai fait une confusion, vous voyez. Pourtant, j'ai vu le court-métrage, mais j'ai fait une... en fait, c'est un peu votre histoire, Bettina, Maude Bettina Marie.
Oui, tout à fait. C'est complètement, fortement inspiré de mon histoire. Oui, de ma première fausse couche, puisque j'en ai fait deux, pour la petite histoire. Mais la première a été traumatisante.
Donc, la psy dit à un moment à cette femme qui subit une fausse couche, vous avez posé des mouchoirs sur vos blessures, mais en dessous, ça saigne encore.
Tout à fait. Et c'est exactement ce que j'ai fait.
Et d'ailleurs, cette femme se demande comment faire le deuil de quelqu'un que je n'ai pas vraiment connu.
Oui. Parce que c'est vrai que c'est un deuil qui est très particulier, parce que j'ai été en tout cas immensément triste de perdre ce bébé, que j'ai mis des mois à appeler bébé. Mmh. Et en fait, c'est très particulier parce que je l'ai aimé tout de suite, sans le connaître. Mmh. Et ensuite, quand je l'ai perdu, il a été question de deuil. Et je me suis dit que c'était absolument pas concret pour moi de faire le deuil de quelqu'un que j'avais jamais connu. C'était très, très abstrait, en fait.
Vous, Mathilde Lemiel, je rappelle que vous êtes l'autrice de Fausse couche, vraie question, où vous avez eu du mal à nommer ce qu'il vous arrivait lors de cette première fausse couche. Comment nommer cet embryon perdu? Vous avez eu du mal à personnifier cet embryon.
Oui, après, je pense pas qu'il y ait forcément besoin de le personnifier. Et moi, c'est même là la première, c'est la deuxième, la troisième fois. Là, j'ai toujours eu du mal à nommer parce que justement, pour moi, bébé, c'était trop fort. Parce que c'était un possible bébé, mais c'était pas un bébé. Et moi, j'avais du mal à les personnifier. Donc, je restais dans le là. Voilà, je le. Il peut-être. Enfin, voilà, je reste assez floue dans comment je le dis. Après, voilà, ça c'est mon ressenti à moi. Je sais que certains ont besoin de dire bébé, d'autres ont besoin de dire embryon. Ça c'est à chacun. Après, je trouve de trouver le mot qui correspond en fait à ce qu'il ressent. Mais c'est pas facile.
Maude Bettina Marie, pour faire le deuil, il fallait nommer cet embryon. C'était nécessaire.
Encore une fois, me concernant, oui. C'est-à-dire que j'ai appris que le cœur s'était arrêté de battre à la première échographie. Donc, j'étais enceinte de 2 mois et demi, 3 mois. Et vous imaginez bien qu'en 2 mois et demi, 3 mois, j'avais eu largement le temps de m'attacher, de me projeter. Et en fait, c'est vraiment ce qui m'a sauvée en partie. En tout cas, je parle de sauver, c'est peut-être un peu fort, mais j'ai été extrêmement mal pendant des mois. Et le fait de le concrétiser, en fait, et de lui donner un prénom m'a énormément aidée, oui.
Et vous, Mathilde Delemiel, hein, oui. Pour faire exister ces embryons perdus, vous avez choisi le tatouage. Ils existent sur et dans votre peau.
C'est ça. Moi, ça m'a fait un bien fou de faire ce geste-là, parce que j'avais l'impression aussi qu'ils passaient de l'intérieur, du coup, à l'extérieur, et qu'en fait, c'est un moyen pour moi aussi de les mettre à distance, même si je les gardais sur moi. Et je sais que j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui soit se tatouent, soit font un rituel, écrivent une lettre, j'en sais rien, mais qui, en fait, ça permet de clore un peu l'histoire, en fait, et de pouvoir avancer vers autre chose, parce que tant que ça reste dans un flou, il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à guérir, en fait.
Mathilde Debouichou, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne.
Oui, le rituel, il est vraiment important parce qu'il permet de pouvoir se représenter ce qui a été perdu et qui est difficilement représentable dans ces situations, de pouvoir faire exister ce qui parfois était inexistant, invisible, invisibilisé par la société ou invisible pour les autres. Et ce rituel, il peut prendre plein de formes différentes. Faire exister, c'est... Quand on a rencontré, on peut se séparer, on peut dire au revoir. Et bien souvent, c'est ça aussi le travail moi, que je fais avec les femmes qui me consultent, c'est de pouvoir les aider à leur manière, à rencontrer, à mieux définir ce qu'elles ont perdu, pour ensuite pouvoir être apaisées et pouvoir s'en séparer. Ça ne veut pas dire forcément, moi j'invite pas forcément les patientes à le personnifier. Voilà, je trouve que peut-être ça va aider certaines femmes, peut-être pas. Là aussi, l'idée, c'est de s'ajuster aux besoins de chaque femme. En tout cas, quand il s'agit de nommer, je propose plutôt de nommer un nom de la nature, nuage. Alors parfois, il y a déjà un petit mot, bibou, ou déjà une petite manière qui, dans le couple, dans l'intimité du couple, qui avait été créée, définie pour parler de ce bébé à venir. Mais donner un prénom... Voilà, peut-être c'est un peu fort.
Maud Bettina Marie, vous avez choisi Olive, c'était le nom qui était prévu
Non, pas du tout.
Pas du tout, ouais.
C'était la taille qui faisait au moment où on a appris la nouvelle.
Mais vous voyez, là, il y a vraiment une dimension symbolique, et c'est, je crois, que plutôt ça qui est à rechercher, plutôt que de l'appeler Marie, Jean-Louis, Camille. De pouvoir poser une dimension symbolique pour pouvoir vraiment matérialiser cette perte, pour pouvoir la dépasser.
Sarah, vous nous avez appelé tout à l'heure. Comment avez-vous surmonté cette perte? Comment avez-vous fait le deuil de cette perte?
Disons que les premières semaines, ça a été un peu difficile, mais j'ai eu la chance de très vite retomber enceinte. Donc, c'est comme ça que j'ai pu faire le deuil. Et par contre, j'avais toujours très peur de refaire une fausse couche pendant cette grossesse. Mais voilà, finalement, ça s'est bien passé. Donc, j'ai eu cette chance.
Et vous, Mathilde Lemiel, le deuil, il est achevé aujourd'hui?
Complètement. Pardon. Moi, du coup, vu que j'ai raconté mon histoire, j'ai une fille aussi. Puis le fait, moi, d'avoir écrit ce livre et d'avoir réfléchi beaucoup sur la question, de m'être plongée dessus, pour moi, c'est un travail de réparation qui a très bien fonctionné sur moi. En tout cas, voilà. Le fait d'apprivoiser un petit peu tout ça, ça m'a permis de l'accepter.
Et vous, moi, de Bettina Marie, ce travail de réparation, il est achevé aujourd'hui?
Ah oui, complètement, oui, bien sûr.
Oui, pardon, allez-y. Vous voulez rajouter quelque chose, Maud Bettina Marie, peut-être?
Non, pas du tout.
Mathilde Bouichou.
Oui, ça me semble important de dire que quand même la grande majorité des femmes traversent, subissent certes ces situations qui sont extrêmement douloureuses, mais vont bien après, et c'est important de le dire pour les enfants aussi qui arrivent après, et que peut-être de trop nommer, trop personnifier une fausse couche, c'est peut-être un peu compliqué aussi pour les enfants qui arrivent après.
Docteur Daniel Assoun, beaucoup de questions sur la fréquence des fausses couches. Comment expliquer les fausses couches à répétition? Quelles sont les causes les plus fréquentes?
Alors, c'est une question extrêmement compliquée et c'est une question pour laquelle la médecine est assez impuissante, je dois dire, et que ça n'a pas beaucoup avancé au cours des 40 dernières années, en tout cas. Alors, il y a les causes fœtales, ce qu'on appelle les causes fœtales, c'est-à-dire effectivement les anomalies chromosomiques. Donc, vous pouvez imaginer que agir sur les anomalies chromosomiques, c'est-à-dire agir au moment de l'implantation, il y a là, pour le moment, en tout cas, quelque chose qui n'est pas jouable. Après, il y a des facteurs de risque, comme on dit, le diabète, la maladie cœliaque, les maladies, les infections, etc.
L'obésité, l'alcool.
L'alcool, les drogues, etc.
L'exposition aux pesticides, peut-être aussi, sont des pistes aussi.
Peut-être, mais si vous voulez, la grande difficulté des facteurs de risque, une fois qu'on sait que c'est un facteur de risque, c'est que faire. Alors, moi, ce que je voudrais quand même dire aussi, c'est pas parce qu'on a un facteur de risque qu'on va automatiquement faire une fausse couche. Les femmes diabétiques ont des enfants, elles font peut-être un tout petit peu plus de fausses couches que les autres, mais si leur diabète est bien équilibré, eh bien, elles ont des grossesses absolument normales maintenant. Après, bon, il y a les causes qui sont beaucoup plus rares et qui tiennent plutôt sur le deuxième trimestre, qui sont les malformations utérines, mais c'est beaucoup plus rare. Donc, la grande cause, ça reste quand même les anomalies chromosomiques. Donc là, on est un peu impuissant. Alors, c'est vrai que théoriquement, là aussi, ça fait partie des recommandations, on fait un bilan à partir de 3 fausses couches. Alors, ça semble très long pour les femmes. Très long. Donc, voilà. Et quel bilan ? Pas grand-chose de vraiment, j'ai envie de dire, rentable ou efficace.
Il y a un traitement à prendre après une fausse couche, docteur Hassoun ?
Alors, on a beaucoup parlé de l'acide salicylique, de l'aspirine, pour essayer de diminuer, pour améliorer l'implantation, mais pas très efficace non plus.
Et il est conseillé d'attendre un peu avant de nouvelles relations sexuelles ?
Alors ça, non. Parce que ce sont des grossesses extrêmement précoces qui, donc, s'expulsent rapidement. Et au fond, moi, ce que je dis aux dames qui viennent et qui font une fausse couche, c'est, eh bien, vous recommencez quand vous vous sentez prête. Suffit que le cycle passe, le cycle d'après, si elles se sentent prêtes à recommencer, elles peuvent recommencer.
Pour terminer, vous aviez signé en 2022 une tribune dans Le Monde de Mathilde Lemiel et vous proposiez quelques mesures comme une campagne nationale d'information, la création de livrets explicatifs, le suivi psy remboursé pour les femmes et leurs conjoints, conjointes. Voilà quelques-unes des mesures que vous préconisiez avec d'autres.
Ouais, on avait
formation oui. Du personnel soignant.
Le but, c'était un petit peu d'essayer de prendre la fausse couche en le traitant le avant, le pendant et le après, et en voyant qu'est-ce qu'on peut faire. Du coup, informer, former les soignants. Et puis protéger les femmes aussi, parce qu'il y avait Sarah qui nous parlait qu'elle n'avait pas eu d'arrêt maladie, ça c'est tellement fréquent et c'est inadmissible.
Et concernant l'entourage, il est important de prendre des nouvelles, d'aider, d'être là pour de vrai, d'écouter, de ne pas minimiser, de compatir, de ne pas donner de conseils non sollicités et de surtout pas comparer. Merci beaucoup Mathilde Bouichou, merci docteur Daniel Hassoun, experte dans cette émission, merci Mathilde Lemiel, je recommande mais vraiment cette BD Fausse couche, vraie question, publiée chez Glénat. Et je recommande également de regarder le court-métrage Olive avec Maud Bettina Marie sur le site de Cogendi Productions.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.